Les 10 principales questions que les non-croyants se posent à propos de l'histoire de Pâques et comment y répondre. Lorsque nous entendons parler de Jésus-Christ pour la première fois, nous n'apprenons peut-être pas qu'il est mort, qu'il a été enterré et qu'il est ressuscité du tombeau. Nous pourrions plutôt entendre parler d'un Dieu qui nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils marcher avec nous en tant qu'être humain. Mais alors Pâques arrive et les chrétiens commencent à parler de l'agneau pascal, de la croix et de la résurrection. Les non-croyants ont des questions, ce qui en fait un excellent moment soit pour partager l'évangile, soit pour renforcer la compréhension d'un croyant moins mature. Voici les 10 principales questions sur Pâques. Pendant que vous réfléchissez aux réponses, demandez à Dieu de fortifier votre propre compréhension afin que vous soyez prêt à partager. 1. Pourquoi Christ a-t-il dû mourir? Le péché doit être payé. Nous voulons tous que les mauvaises personnes soient punies pour avoir blessé nos proches ou nous avoir blessés. Mais nous sommes tous pécheurs et Dieu ne peut tolérer le péché. Nous voulons que le mal soit puni, mais nous sommes aussi mauvais. Comment pouvons-nous nous attendre à ce que Dieu punisse les péchés des autres tout en fermant les yeux sur les nôtres? Comment pouvons-nous apaiser un Dieu juste? Les sacrifices d'Israël n'ont jamais été suffisants, ils ont seulement souligné le sacrifice ultime et éternel de Jésus. C'est pourquoi il dit, « Mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Matthieu 11:2-30. Il a pris sur lui le fardeau du sacrifice une fois pour toutes. Lors de leur dernier repas de Pâques, Jésus a dit à ses disciples de boire et de manger en souvenir de ce qu'il allait faire. « Ceci est mon corps, qui est donné pour toi. » Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versée pour vous. Luc 22, 19,20, le Père exige un sacrifice juste, un agneau sans défaut. 1 Pierre 1h19, Christ est venu pour payer le prix et racheter tous les gens qui viennent à lui comme leur sauveur. Lui seul a pu payer l'amende. 2 Pourquoi Judas a-t-il trahi Jésus? Billy Graham a écrit sur les spéculations entourant le choix de Judas de trahir son maître. Il était gourmand, peut-être avait-il pensé à Jésus comme à un leader purement humain avec beaucoup de pouvoir à conférer à ses disciples. Est-il possible qu'un démon se soit emparé de Judas et l'ait contrôlé? Graham a affirmé que la raison la plus profonde est que Judas a refusé de croire que Jésus était l'instrument de Dieu, envoyé du ciel pour nous sauver de nos péchés. Le choix de Judas vient de l'incrédulité. Il suivait Jésus corporellement, mais il ne suivait pas le rabbin dans son cœur. Alice Arroa commente, Judas a utilisé cette position pour son gain personnel, et il a également révélé un cœur froid envers la femme qui a lavé les pieds de Jésus avec du parfum. Jean 12, 7 à 8, il n'essayait pas d'économiser de l'argent pour les disciples ou pour les pauvres, il espérait voler le magot pour son seul profit. Il était comme un pharisien, un tombeau blanchi à la chaux, qui paraît beau au dehors, mais qui, au dedans, est plein d'ossements de mort et de toutes impuretés. Matthieu 23h27, Judas a trahi Jésus parce que, bien qu'il le suive physiquement, son cœur était à l'écoute de son propre désir de sécurité et de pouvoir, qu'il aurait avec Jésus ou loin de lui. 3. Jésus savait-il qu'il serait trahi? Lors de leur dernier souper de Pâques, Jésus a déclaré, « Mais voici, la main de celui qui me livre est assis à table avec moi. » Luc 22:21. Tout le monde autour de la table a regardé autour de lui pour voir de qui il s'agissait, mais nous savons que Judas était le coupable. « Malheur à cet homme, » a averti Jésus. Alors oui, Jésus savait que Judas allait le trahir. Pourquoi ne pas arrêter Judas? Ou l'appeler devant les autres pour qu'il puisse le punir ou l'en empêcher d'une manière ou d'une autre? Premièrement, comme indiqué ci-dessus, Jésus devait mourir. La trahison de Judas a aidé le Christ à entreprendre son dernier voyage, le faisant porter sa propre croix au calvaire. Mais pensez aussi au reste du ministère de Jésus, il n'a jamais empêché personne de faire quoi que ce soit, ni contraint personne à faire quelque chose. Il a appelé et les gens ont répondu, ou pas. Beaucoup se sont détournés. Beaucoup sont retournés à leur péché. Les disciples de Jésus sont libres de faire ce qu'ils veulent. Paul l'exprime ainsi, « Tout est permis, mais tout n'est pas bénéfique ni utile », 1 Corinthiens 10:23. Jésus n'a pas empêché ceux qui l'entouraient de satisfaire l'avidité, la luxure, la colère, etc. Il leur a cependant proposé une meilleure voie et leur a enseigné les récompenses du fait d'être disciples par rapport aux conséquences de la rébellion. Pour Jésus, il n'y avait rien de mieux que de faire la volonté du Père. Il a vécu ce que le psalmiste a écrit, « Tu me fais connaître le chemin de la vie, en ta présence, il y a plénitude de joie, à ta droite se trouvent des plaisirs éternels. » Psaume 16:11. 4. Pourquoi le Vendredi Saint est-il appelé aussi Good Friday? Beaucoup de gens, lorsqu'ils apprennent que le Vendredi Saint est le jour où le Christ a été crucifié, se demandent pourquoi les chrétiens appellent cela Good Friday. Après tout, la crucifixion est horrible. Selon un article pédagogique de la BBC, le terme Good Friday remonte au moins à 1290. Justin Holcon écrit qu'il s'agit potentiellement d'une corruption du Vendredi Saint. Pourtant, le Good Friday persiste parce que ce jour est bon. Les pécheurs peuvent venir à Jésus comme sauveur parce que son sang les a couverts. C'est la première partie de la bonne nouvelle de l'Évangile. Et il faisait toujours allusion à la deuxième partie. Considérez la déclaration prophétique de Jésus selon laquelle il ressusciterait du cœur de la terre après 3 jours, tout comme Jonas a été recraché un gros poisson après 3 jours. Sauf que quelque chose de plus grand que Jonas est ici. Matthieu 12:40-41, la mort du Christ était nécessaire parce que les croyants le suivent à tous égards. Nous mourons à nous-mêmes, mais nous ressuscitons aussi. Nous souffrons, mais nous avons aussi la victoire sur nos ennemis. Nous ne pouvons pas avoir un sauveur ressuscité sans un sauveur décédé, c'est pourquoi ce vendredi-là est good. Vendredi nous indique que Jésus a accompli tout ce que le Père voulait et qu'il n'y a plus rien à payer. 5. Le vendredi saint est-il plus important que le dimanche de Pâques? Billy Graham a écrit, « Sans la mort de Jésus, nous n'avons aucun espoir de pardon de Dieu, et sans la résurrection de Jésus, nous n'avons aucun espoir de vie éternelle. Comme les deux ailes d'un avion, les deux sont essentielles. Aucun des deux jours n'est plus important. Si Jésus mourait, l'Empire romain serait plus puissant que Dieu. La colère de Dieu est toujours sur nous. Sans sa mort très publique et atroce, nous pourrions éternellement débattre de la question de savoir si Jésus est mort ou non et s'il ne s'est pas simplement évanoui dans les brumes célestes, comme certains le suggèrent. Sans sa résurrection, nous n'aurions pas l'espoir que nos péchés soient vaincus à la croix. De plus, les Écritures n'ont guère de sens sans la résurrection de Jésus. Le psaume 16:10 dit « Tu n'abandonneras pas mon âme au Sheol ». Ces paroles trouvent un écho dans psaume 49:15, psaume 86:13 et Jonas 2:6. Les os secs de la vision d'Ézéchiel ne sont que des illusions, Ézéchiel 37. De vastes portions du Nouveau Testament deviennent du charabia. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Jean 11:25. Jésus a également dit, si je suis relevé de terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Jean 12:32, dans sa lettre à l'église de Colosse, Paul a écrit, si vous avez été ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, là où est Christ, assis à la droite de Dieu. ; 6. Si Dieu est aimant, comment pourrait-il envoyer son Fils unique mourir? Dieu exige que le péché soit payé par le sang. Brian Rosney a expliqué, pour nous rapprocher, Christ est mort pour les péchés, le juste pour les injustes, 1 Pierre 3, 18. Si les injustes c'est nous tous, les justes c'est Jésus lui-même. Mais comme il est cruel, disent certains, d'envoyer Jésus à cette mort particulière. Un rapport médical rédigé à l'époque moderne, basé sur des récits bibliques et profanes concernant la crucifixion, indique l'horreur de ce genre de mort longue et lente. Listrobel a expliqué que le mot « atroce » a été inventé pour décrire une douleur et une souffrance extrême, et signifie littéralement « hors de la croix ». Il existe cependant une idée fausse selon laquelle Jésus est allé à la croix contre sa volonté. Jésus dit à ses disciples, « Je donne ma vie pour la reprendre. Personne ne me le prend. » Jean 10:17-18, Jésus y est allé volontairement. Il y est allé avec joie parce qu'il a réalisé le plan que lui et le Père avaient établi dès le début. Hébreux 12:2, le pire de l'agonie était qu'après avoir pris notre péché sur lui, Dieu détournait son visage. Mais Christ nous a tellement aimés qu'il a enduré cette brutalité afin que nous sachions qu'il peut comprendre tout ce que nous souffrons, Hébreux 4:15, et démontrer sa grande puissance. 7. Quelles traditions de Pâques courantes sont chrétiennes? Les historiens suggèrent que les œufs de Pâques possèdent en fait une signification chrétienne puisqu'ils représentent la sortie de Jésus du tombeau et sa résurrection. La tradition de peindre des œufs de Pâques est vieille de plusieurs siècles et pourrait être liée à une coutume du carême. Pendant ces 40 jours d'abnégation, les œufs étaient interdits, donc peindre des œufs était une célébration de la fin du carême. Peindre des œufs ensemble offre une ouverture pour parler de la renaissance en Jésus-Christ. Madeleine Calu indique que le lapin de Pâques est cependant un symbole païen. Afin de convaincre les païens d'accepter le christianisme, les moines envoyés de Rome ont combiné la résurrection du Christ avec la croyance des nouveaux convertis en une déesse de la fertilité connue sous le nom d'Ostara, représentée par le symbole d'un lapin. Le problème est que certains parlent du printemps comme s'ils adoraient une personne. Ils la remercient, croyant qu'il existe un dieu ou un esprit spécifique pour chaque saison. Mais Dieu nous a donné quelque chose de mieux en se faisant connaître sous la forme d'un homme, Jésus. Il nous a avertis que nous ne pouvons venir à Dieu que par Jésus, l'adoration d'autres dieux est de l'idolâtrie et il ne le tolérera pas. Tu n'auras pas d'autre dieu devant moi. Exode 20:3-8. Jésus est-il vraiment ressuscité dimanche? Une controverse au sein et à l'extérieur de l'Église concerne la mort et la résurrection du Christ entre vendredi et dimanche. Il a donné un délai de 3 jours, est-ce que c'était 3 jours et 3 nuits? Était-il en train de dire que vendredi est le premier jour, samedi le deuxième jour et dimanche le troisième jour? Gabriel Hanne. Fleury a expliqué que les Juifs du 1er siècle comptaient les jours différemment de nous aujourd'hui. Selon leur conception des jours, une partie d'une journée comptait pour une journée entière. Il nous rappelle qu'un peu de réflexion et une certaine compréhension des différences culturelles nous aident à constater qu'il n'y a aucune incohérence. Ben Witherington y soutient que l'expression « après 3 jours » dans le Nouveau Testament peut simplement signifier « après un certain temps » ou « après quelques jours » sans aucune spécificité claire au-delà de la suggestion de plusieurs jours. Parfois, ils sont précis, et parfois moins. Pourtant, l'accent est clairement mis sur 3 jours par opposition à quelques jours lorsque l'on examine les évangiles. L'Écriture a le dernier mot, les évangiles nous disent qu'il a été crucifié vendredi et ressuscité du tombeau dimanche. Fleury. 9. Pâques est-elle une période de deuil ou de célébration? Pâques comporte 2 parties, les croyants honorent et pleurent le sacrifice de Jésus. C'est un jour solennel pour les chrétiens car notre péché l'a cloué sur la croix. Lui-même a porté nos péchés dans son corps sur le bois, afin que nous mourions au péché et vivions pour la justice. C'est par ses blessures que tu as été guéri. 1 Pierre 2h24. Le péché est réel. Nous sommes tous des pécheurs. Le péché n'est pas seulement un meurtre, un viol ou un vol. Le péché est tout acte de rébellion contre les instructions et les commandements de Dieu. Nous avons besoin de Jésus comme notre Sauveur. Il n'y a pas de vie en dehors de Dieu et il n'y a pas d'accès à Dieu autrement que par le sang du Christ. Jean 14, 6, la deuxième partie est une célébration de la victoire du Christ sur le péché, sur Satan et sur la mort. C'est certainement un jour joyeux parce que Christ est réellement plus puissant que ses ennemis, et ses ennemis sont nos ennemis. Si Jésus-Christ les a vaincus et que nous sommes en Christ, alors nous les avons vaincus et continuerons de le faire. Il a finalement vaincu notre péché. En lui, nous vaincrons également nos péchés jour après jour. Le péché nous a séparés de Dieu lorsque nous ne vivons pas pour Jésus. Désormais, nous pouvons vivre libérés de la peur d'être séparés de notre Père, dans l'angoisse, pour toujours. C'est une raison fantastique de célébrer. 10. Quelle est l'explication du tombeau vide? Les vêtements funéraires de Jésus contenaient des épices, qui étaient extrêmement précieuses au moment de sa mort, selon Georges Sinclair. Le placement des vêtements funéraires correspond parfaitement à la résurrection en tant que cause, plutôt qu'à l'action humaine en tant que cause. Ses vêtements ont été laissés sur place, mais son corps avait disparu. Si des pilleurs de tombes avaient osé tenter de duper des soldats romains hautement entraînés, ils se seraient précipités, se seraient emparés du corps et se seraient livrés au partage du butin dans un endroit moins dangereux. Cela suppose qu'ils auraient pu déplacer l'énorme pierre. Pas de pilleurs de tombes et Jésus ne peut pas être sorti. Les rapports médico-légaux sont clairs, Jésus était mort. Pourtant il est revenu. Pour ceux qui se demandent si le Christ était mort mais si un imposteur l'a remplacé, encore une fois, le témoignage de ces apôtres qui ont risqué leur vie pour partager la bonne nouvelle nous dit qu'il est venu vers eux physiquement et a mangé avec eux. Luc 24h41, il les a enseignés et réconfortés. Oui, beaucoup de gens ont entendu Jésus prêcher et n'auraient pas pu le voir de près, mais ceux qui connaissaient Jésus comme ami ont passé du temps avec lui avant son ascension. Pourquoi inventer ça, pour mourir pour un mensonge? Ils étaient prêts à fuir pour sauver leur vie, mais ils sont restés pour prêcher la bonne nouvelle à tous ceux qui voulaient bien les écouter. Pourquoi tout cela est important pour vous? Parce qu'un Sauveur aimant veut entretenir une relation avec vous. Il était prêt à endurer la croix parce qu'il vous aime, il veut embrasser au ciel. Il ne veut pas que vous passiez l'éternité avec le diable, mais nous avons tout la liberté de choisir. Lorsque nous nous souvenons de la mort de Jésus sur la croix et de son triomphe le troisième jour, nous nous souvenons que nous ne pouvons pas nous permettre d'être désinvoltes à propos du péché, mais que nous pouvons être libérés de la honte. Jésus n'aurait pas pu ressusciter s'il n'était pas mort auparavant. Pâques est synonyme d'une nouvelle vie, la sienne et la nôtre.